9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est un chaos politique comme l'Angleterre n'en a jamais connu. Épreuve de force entre un Parlement hostile à un Brexit dur et un Premier ministre qui tient coûte que coûte à tenir sa promesse.
Les sceptiques, les Cassandres, les pessimistes, ils vont se tromper à nouveau. Les gens qui parient contre la Grande-Bretagne vont-ils laisser leur chemise? Parce que nous allons restaurer la confiance en notre démocratie et nous allons réaliser les promesses répétées du Parlement au peuple. Et sortir de l'Union européenne le 31 octobre, un point, c'est tout.
Boris Johnson, lors de sa nomination fin juillet et dont le mandat vire au désastre, ce sera le premier sujet pour nos invités. Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation, il publie La Promesse, réflexion philosophique sur la promesse en politique. Mais la politique peut-elle se passer de promesses? Et Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, qui a écrit le roman de la France de Vercingétorix à Mirabeau parce qu'il avait envie de raconter l'histoire de France à l'ancienne, avec ses grandes figures historiques, ce que, déplore-t-il, on ne fait plus aujourd'hui à l'école. Et justement, cette semaine de rentrée scolaire, Céline Alvarez, la pédagogue des lois naturelles de l'enfant, best-seller à plus de 200 000 exemplaires il y a 3 ans, revient avec Une année pour tout changer, où elle raconte les résultats obtenus en Belgique dans des classes de maternelle et de CP, où elle a accompagné 750 enseignants et des enfants devenus sereins, épanouis, autonomes. Quelle promesse!
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Vincent Peillon.
Bonjour.
Vous avez été député, eurodéputé, ministre, candidat à la primaire citoyenne de 2017. Vous êtes redevenu depuis directeur de recherche au CNRS. Et le prof de philo que vous avez été, docteur en philosophie, publie cette semaine aux presses universitaires de France La Promesse. Entre-temps, vous vous êtes promis d'arrêter la politique?
C'est-à-dire que, vous savez, j'ai commencé la politique un peu par hasard, mais assez tôt. J'étais prof de philo, donc on voit les choses. Les gens ont l'impression qu'on est philosophe, politique professionnel. Il y a eu tout ce débat ces dernières années. Moi, je suis élu pour la première fois quand j'ai 37 ans. C'est-à-dire finalement très peu d'années de moins que l'actuel président de la République quand il est élu. Et j'enseigne depuis 15 ans. C'est mon métier. Bon. J'ai continué tout au long du temps où j'étais élu, alors ça c'est peut-être un peu plus rare, mais de publier, de travailler, de faire mes livres de philosophie, parce que je viens d'une tradition, auquel j'essaye de rendre hommage parfois, dans laquelle il n'y a pas de distinction, il n'y a pas à couper les êtres entre citoyens, politiques, philosophes ou toute autre profession. J'ai souvent pensé d'ailleurs en faisant de la politique qu'une infirmière ou un professeur ou un journaliste fait plus de politique parfois que quelqu'un qui a un mandat politique qui est pris dans un certain nombre de contraintes.
Donc vous êtes redevenu philosophe à plein temps ou chercheur à plein temps.
Voilà, donc si vous dites la politique au sens d'un mandat, ouais, au sens d'incarner un parti, de représenter un collectif, oui, ça. Mais après, il me semble qu'il y a plusieurs façons d'agir dans la cité et d'essayer d'y avoir un peu d'influence.
Et on va parler de votre réflexion sur la promesse en politique. Bonjour Laurent Geoffrin.
Bonjour.
Directeur de Libération, votre promesse à vous, c'est de raconter l'histoire de France comme le plus palpitant des romans. C'est
absolument
le roman de la France, chez Talendier. On va y revenir après s'être arrêté sur ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire le roman du Brexit. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces promesses politiques comme celle de Boris Johnson qui se fracasse aussi brutalement? Est-ce que ce n'est pas le pire de la politique?
Il y a une entourloupe chez Johnson parce qu'il se prévaut du peuple contre le Parlement. Il interprète la volonté du peuple comme celle de sortir du Brexit,
de l'Europe. C'est la volonté du peuple britannique telle qu'elle s'est exprimée il y a 3 ans.
Sans négociation.
Ouais.
Lui, il ne veut pas négocier, il veut sortir comme ça. Mais on ne sait pas si le peuple pense ça. Donc c'est une usurpation, son histoire. C'est le souverainisme populiste qui se prévaut de la légitimité populaire et qui en fait la trompe, puisque les Anglais ont voté pour sortir, on est bien d'accord, mais ils n'ont jamais voté pour rompre de manière brutale avec l'Union européenne, je ne crois pas. En tout cas, on voit bien dans l'opinion qu'il y a 3 positions. Il y a des gens qui veulent rester en Europe, d'autres qui veulent sortir en négociant, et d'autres qui veulent sortir sans négocier. Mmh. Ça fait 3 positions, pas 2. Et donc, il y a une escroquerie intellectuelle consistant à dire « moi, je suis le peuple, et vous êtes les élites qui essayez d'imposer un remain, une politique dont les gens ne veulent pas. » C'est faux, c'est encore un mensonge populiste.
Vincent Peillon, vous n'êtes pas frappé par la façon dont tout le discours de Johnson et de ses partisans s'articule autour de cette promesse qui doit être tenue à tout prix?
tout le temps, depuis la Bible, hein, c'est ce que j'ai essayé de montrer, on est sur cette idée de promesse. Mais par rapport à ce que vient de dire Laurent Geoffrin, et puisqu'on vit là, bon après, c'est des cas. Ce qui est intéressant dans la promesse, c'est qu'on peut vous demander, et on vous demande de faire des promesses, parfois des promesses dont on sait d'ailleurs qu'elles ne pourront pas être tenues, mais si vous ne la faites pas, on vous le reproche quand même. C'est très fréquent en politique, regardez les campagnes électorales. Et les politiques qui ne font pas de promesses ont généralement beaucoup de mal à se faire élire. Et inversement, par rapport à ce que vient de dire Geoffrin et l'affaire de Johnson, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que, dans le fond, quand vous faites une promesse, vous répondez à la promesse qui vous demande d'être élu, j'ai plein de cas, on peut en trouver. Après, la façon dont on va mettre en œuvre la promesse, elle n'est pas inscrite dans l'engagement qu'on a pris au début. Parce qu'il y a plein de façons de réaliser, surtout en politique, où le temps T1 n'est pas le temps T0, où les circonstances ont changé, où les interprétations peuvent changer. Et donc, il y a tout un jeu, comme ça, sur la promesse, qui fait qu'après, on se bagarre pour dire, voilà, c'est moi qui tiens vraiment la promesse, ou c'est moi qui ne la tiens pas, ou tu as trahi la promesse. Mais en réalité, et on le voit dans ce cas-là, on ne peut pas s'en passer, et en même temps, on sait qu'on ne peut pas la tenir non plus, on ne peut jamais la tenir. Et on est plus, et c'est le cas de Johnson et de ce genre de personnalité, irruptif quand même, hein, on est dans une violence politique, parce que ça ne dit pas, mais l'Angleterre, c'est la démocratie parlementaire, c'est le libéralisme. Et là, on assiste quand même à des... Alors, ça a toujours été les débats au Parlement anglais, à la Chambre, ont toujours été des vrais débats. Comme mais là, on est quand même, on le voit, sur une violence terrible, et par rapport à l'Europe, sur une évolution qui est quand même inquiétante.
Par rapport à l'Europe, justement, le temps est en train de tourner quelque peu pour les populistes. Johnson mis en minorité, Salvini hors-jeu en Italie. Mais les promesses non tenues, Laurent Geoffrin, ce n'est pas seulement l'apanage des populistes.
Ah non, il y avait une promesse de l'Europe. Quand on a fait voter les traités, c'était une promesse de protection. Je me souviens très bien que Mitterrand, il avait mis sa main comme ça, comme une coupe renversée, il avait dit « nous sommes là pour protéger le peuple ouais. ». Et évidemment, cette Europe ne l'a pas fait, ou pas assez, elle a fait beaucoup de choses, hein. Moi je suis très européen, mais elle n'a pas protégé assez, notamment les classes populaires qui sont entrées en dissidence. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France que ça se produit.
Vincent Payon, Laurent Geoffrin, on vous retrouve dans un instant pour parler de vos deux livres et on va commencer par revisiter l'histoire de France.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec Vincent Payon, La Promesse et Laurent Geoffrin pour un livre surprenant, Le roman de la France, une histoire de la liberté de Vercingétorix à Mirabeau. C'est l'histoire de France que vous parcourez à grandes enjambées en nous racontant ses grandes figures, ses héros, ses rois, ses rebelles. À l'ancienne, quoi. C'est pour ça que c'est
mais
surprenant.
Vous dites à l'ancienne, je ne suis pas d'accord parce que ça me paraît plus moderne que ce qu'on fait.
Oui, mais...
Parce que ça, l'histoire de France, c'est un roman vrai, mais c'est un roman. Et donc j'essaye de le transcrire. Et donc je travaille comme font les auteurs de séries, de télévisées. Moi, je ne suis pas dans la fiction, je suis dans le réel. Mais je fais la même chose. C'est-à-dire j'essaye de construire un récit avec des personnages, des rebondissements... Des ascensions fulgurantes, des chutes abyssales, etc.
Mais c'est
ça me paraît
qui...
beaucoup plus moderne de raconter l'histoire de la France comme ça que de s'en tenir à des généralités ou de partir de grands courants qui sont les grands courants, ils sont très importants, évidemment, ouais. Ça permet de comprendre les courants économiques, sociaux, les mentalités, l'évolution
les l'urbanisation,
les structures, voilà. Ouais. Mais les structures, c'est le décor. Ouais. Le décor, c'est pas la pièce.
Oui, mais
la pièce, c'est les acteurs.
Vous-même, Laurent Geoffrin, vous évoquez une forme de nostalgie de la façon dont vous avez vous-même appris l'histoire il y a une cinquantaine d'années.
Oui, parce que les professeurs à l'époque utilisaient cette méthode. Alors, ils vous racontaient une histoire qui était en partie mythologique, il faut bien le dire. Moi, j'essayais de corriger ça aussi. Eux, ils étaient dans le roman national républicain ou national républicain, qui est faux, qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses fausses.
Oui, c'est le Lavis.
Oui, mais alors France qui existe du temps des Gaulois et puis elle vit indéfiniment sur
le petit Lavis qui était le manuel d'histoire d'il y a un siècle et qui s'ouvrait ainsi. Enfant, dans ce livre, tu apprendras l'histoire de France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et son histoire l'a faite grande. Bon, c'est pas ça, c'est pas
non,
ça.
Non,
c'est une histoire subjective où déboulonnez quelques statues. Richelieu, idéologue absolutiste. Oui. Louis XIV qui a ruiné le pays. Louis le Petit.
Ah, Louis XIV, c'est épouvantable. Hein.
Ouais.
C'est épouvantable. C'est quand vous regardez le règne de Louis XIV, il y a Versailles, formidable. Moi, je vais à Versailles souvent, j'aime bien. Mais alors, la politique, il y a des guerres tout le temps. D'ailleurs, il l'a regretté lui-même dans son testament. Il dit j'ai trop aimé la guerre. Il était en train de s'en apercevoir, il était en train de mourir. Mais il a ruiné le pays. C'est-à-dire, on parle de la dette française aujourd'hui.
Oui, oui.
Il fait 100% du PIB. Oui. Il a fait une dette de 300 ou 400% du PIB.
Et 5 fois plus.
Tout le budget de la France était engagé pendant 3 ans ou 4 ans pour rembourser la dette uniquement. C'est une folie. Et dans la même histoire traditionnelle, on déprécie le régent qui lui a succédé, Philippe d'Orléans, qui était un libertin.
Que la fête commence, de Tavernier.
Voilà, mais c'est que la fête commence, il se trompe. Philippe d'Orléans a très bien gouverné la France.
Alors, à l'inverse, vous célébrez Aliénor, la première femme libre.
Ah, elle est formidable.
Louis XI, le moderne. Oui, Gutenberg, le start-upper le plus célèbre de l'histoire.
Mais oui, parce qu'on parle toujours de Bill Gates et des autres. Là. C'est des petits messieurs par rapport à Gutenberg. C'est pas l'invention de l'imprimerie, le caractère mobile, comme la puce informatique, c'est un peu la même chose. C'est ça qui a permis de... D'abord, avant, on lisait à haute voix. Donc le lecteur à haute voix pouvait influer sur celui qui entendait le récit. Mais dès lors que vous avez un livre, vous lisez sans parler, enfin, la lecture muette. Et donc vous avez un rapport intime à la lecture, ce qui développe l'esprit critique et l'individualisme. C'est très important dans l'histoire du monde.
Et vous notez aussi que la Renaissance a prouvé les bienfaits culturels du capitalisme.
Oui,
c'est la richesse des cités marchandes qui a fait vivre les peintres et les sculpteurs.
C'est évident. Ça, c'est un clin d'œil pour mes amis de gauche qui sont toujours en train de vitupérer le commerce, le capitalisme.
Je l'ai bien repéré.
J'ai bien vu. et quand vous regardez la Renaissance, la Renaissance, elle est née à Venise, à Gênes, et dans les villes hanséatiques du Nord. Et c'était des villes commerçantes, c'était des gens qui n'étaient pas toujours très sympathiques, hein. C'était des gens très cupides et très violents, mais c'est eux qui ont financé. Les banquiers ont financé Michel-Ange, Léonard de Vinci, tout ça, c'est grâce au capitalisme naissant qu'il y a eu les forces matérielles pour subventionner tous ces artistes et tous ces créateurs. Donc c'est intéressant de le noter. Mais c'est aussi l'histoire de la France dans ses rapports avec le monde. Parce que on dit qu'il ne faut pas raconter l'histoire de la France parce que c'est la nation, c'est horrible. Mais je trouve que c'est une bêtise. On laisse la nation aux nationalistes.
Oui,
alors, comment faire une erreur politique aussi grave?
Oui, ça j'allais y venir. C'est Patrick Boucheron et son histoire mondiale. Ce qui est intéressant, Laurent Geoffrin, c'est que vous examinez la postérité de tous ces personnages qui continuent de nourrir le débat public, qui sont souvent, y compris dans les discours politiques, et les discours de ceux qui prônent justement un récit national, patriotique, centralisateur. Et on se demande parfois, en vous lisant, si ce n'est pas un peu ce que vous faites avec ce roman de la France.
Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que, regardez, les nationalistes, les conservateurs, comme vous voulez, portent au pinacle Clovis. Parce que c'est le baptême de la France. Le problème, c'est que d'abord, il ne s'appelait pas Clovis, il s'appelait Clodovig. Ce qui déjà relativise un peu le côté ancêtre de la France. Vous voyez, parce qu'il vient d'Allemagne, ce Clovis. C'est un franc, les francs viennent d'Allemagne. Et deuxièmement, le baptême de la France, c'est une blague. La France était déjà baptisée, parce que les gallo-romains et la chrétienté étaient déjà répandues en Gaule. Et ses ennemis, une partie de ses ennemis, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens ariens. Mais comme les ariens sont des... C'est une hérésie au point de vue des catholiques, on a éliminé ces gens-là. Et on a dit, le baptême de la France, c'est Clovis. Ça, c'est mythologique. C'est pas la France, d'abord. C'est un royaume franc, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et la France, elle est née beaucoup plus tard, un peu avant la guerre de Cent Ans. Tous les rois, jusqu'à Philippe Auguste, ils signent roi des Francs. Ils ne signent pas roi de France. C'est Philippe Auguste qui dit, désormais, je suis le roi de France. Alors, c'est beaucoup plus tard, ça. Donc, la droite nous raconte des bêtises sur les origines du pays.
Vous ne pensez pas qu'on doit donner un sens à la nation française, enfin à l'histoire de la nation française, mais que, pour reprendre la formule qui avait été celle d'un discours de François Hollande, la France n'est pas une identité, c'est une idée, c'est ça ?
Enfin, y a un héritage, il y a des racines, y compris des racines chrétiennes, ce serait idiot de dire le contraire. Tous les toponymes français, ils sont influencés par la religion catholique. Il y a des cathédrales partout, des églises, ce serait idiot de nier ça. Mais c'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est effectivement, la France est un projet aussi. C'est un héritage, il n'y a aucun doute, mais c'est un projet qui est toujours à l'œuvre. Et ce projet, c'est la recherche de la liberté. C'est le premier terme du triptyque républicain. Et donc, moi, j'ai repris tout ce récit pour montrer que pratiquement à toutes les périodes, cette aspiration existe, elle est là. Et ensuite, elle va s'épanouir dans la violence, d'ailleurs, au 19e et au 20e siècle. Mais déjà, vous avez, par exemple, je crains qu'à l'école, on ne raconte plus la guerre de Cent Ans. C'est une idiotie, si on ne le fait pas. Alors, je pense qu'on le fait quand même. Les professeurs, ils savent bien que ça intéresse les élèves. Mais si on raconte pas la guerre de Cent Ans, on ne comprend pas la révolte des bourgeois de Paris avec Étienne Marcel, qui avait pondu une constitution qui est la même que celle de 1789. Donc vous vous retrouvez avec un bourgeois du Moyen-Âge, un grand bourgeois, Étienne Marcel très puissant, etc., qui fait écrire un texte de loi, qui n'est pas rentré en vigueur parce que le roi a gagné, mais s'il avait gagné, lui, il aurait établi une monarchie parlementaire, à l'anglaise, tout de suite, dès la guerre de Cent Ans. Alors c'est intéressant de noter ça, parce qu'on s'aperçoit donc que la liberté existe avant même que l'idée soit formulée, ou l'idéologie vienne des Lumières, on croit que ça vient des Lumières. Non, ça existe, ça vient d'avant. Et il faut raconter donc ces personnages et ces histoires, ces combats, ces luttes, qui font la vraie identité de la France.
Et parmi vos personnages, il y a un Babacar.
Qui
personnifie l'esclavage, c'est un pêcheur du fleuve Sénégal, qui revient comme esclave.
On revient à Louis XIV, c'est-à-dire que Louis XIV a fait rédiger, il a signé le document le plus sinistre de l'histoire de France, qui s'appelle le Code Noir, qui est censé réguler l'esclavage et limiter les excès, en fait, qui codifie un crime contre l'humanité, mais paragraphe après paragraphe. Et donc, je raconte la vraie vie d'un esclave. Alors, j'ai pris le Sénégal, ça aurait pu être ailleurs. Et à cette époque-là, et cette vie, c'est terrible. Quoi. C'est terrible à raconter. C'est pour ça que c'est tout ce débat que la droite anime sur la repentance. Il ne faut pas se repentir. Mais si, il faut se repentir. Quand on lit l'histoire de Babacar, il faut se repentir, parce que c'est horrible. Bon. Non, pas nous, personnellement, on n'y est pour rien, évidemment. Tu vois. On n'était pas nés. Mais la France, elle existait à l'époque. C'était le roi de France, Louis XIV. Donc la France existait. La France doit se repentir de ce crime contre l'humanité. Mais encore faut-il le raconter dans ses détails. Pas seulement comme une abstraction, l'esclavage, comme ça, la colonie. Non, il faut raconter la vie de ces gens-là.
Vincent Payon, un mot. Est-ce que vous aimez l'histoire de France racontée ainsi? Est-ce que l'ancien ministre de l'Éducation trouve que l'histoire devrait être racontée différemment, comme le suggère Laurent Geoffrin?
Bon, d'abord, moi, je crois qu'elle est bien racontée, y compris par Laurent Geoffrin, parce qu'on veut toujours... Mais ce qui est passionnant, c'est que dans l'histoire, il y a un paradoxe qui était très bien exprimé par un historien des nations, c'est rien ne change plus vite que l'immuable passé. Le passé, il ne devrait plus bouger. Mais ce n'est pas ça. Donc chaque génération doit réécrire entièrement son histoire. Or, moi, ce qui m'intéresse à lire dans les historiens, moi, je suis historien des idées, hein, c'est mon métier, c'est que, en fait, Nietzsche disait la parole du passé est toujours parole d'oracle. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence, ce que fait Geoffrin là, si vous le lisez, vous allez vous dire pourquoi il est un homme engagé dans son temps, Geoffrin, par définition, et qui pense à demain. Donc pourquoi il l'a réécrit comme ça? Parce qu'il ne nous dit pas quelque chose hier. Bien sûr, il nous dit quelque chose hier.
Je raconte
quand même. C'est inépuisable passé. Mais ça nous annonce quelque chose de demain. Et ça, c'est le merveilleux de l'histoire. Alors, il y a une autre chose dans ce qu'il dit qui est très importante, qui se développe beaucoup. C'est que, évidemment, l'histoire est toujours écrite, on le sait, par les vainqueurs. La question, c'est qu'il faut faire de la contre-histoire en permanence, c'est-à-dire faire revenir ce qui a été oublié ou tracer des perspectives différentes. C'est pour ça qu'elle est inépuisable. Et dans le fond, c'est un très bel exercice de liberté.
Une pause dans cette émission avec Vincent Payon et Laurent Geoffrin. La politique peut-elle se passer de promesses ?
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Avec Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, auteur de ce roman de la France chez Talendier, et Vincent Payon, ancien ministre qui traite de la promesse, un petit essai philosophique qui paraît au PUF. Alors on connaît la rengaine, Vincent Payon, des promesses, toujours des promesses, inutile d'insister sur la part des promesses non tenues dans le discrédit qui frappe la politique, mais ça vaut la peine de citer Machiavel, qui n'est pas un jeune auteur, ce que vous faites. L'histoire de notre temps enseigne que seuls ont accompli de grandes choses les princes qui ont fait peu de cas de leurs paroles et su adroitement endormir la cervelle des gens. En fin de compte, ils ont triomphé des honnêtes et des loyaux. Fin de citation. Mais c'est un constat, c'est pas un précepte.
Non, bien sûr, c'est un constat. D'ailleurs, souvent, on se trompe sur Machiavel parce que on pense que Machiavel, c'est le cynisme, quoi, hein, ce genre de phrase. Mmh. Et même un auteur républicain comme Rousseau disait Machiavel, c'est le livre des républicains, parce que en décrivant les mécanismes réels du pouvoir, il vous arme pour vous en défendre et évidemment lutter contre. Donc on peut lire Le Prince, parce qu'il y a deux Machiavel, mais on peut lire Le Prince comme une leçon de cynisme, c'est généralement ce qu'on dit.
Et vous dites, c'est de la politique.
Oui, je dis, si vous voulez, il décrit un fonctionnement, il essaie de décrire un fonctionnement réel. Bon. Après, il y a chez Machiavel... à mon avis, un excès, parce que Machiavel vous explique en fait ce qu'on connaît après avec Pascal. Il explique qu'en nous, il y a deux parts. Il y a
l'ange et la bête. Et au fur et à mesure du prince, il oublie quand même un peu l'ange. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on s'adresse essentiellement à des bêtes et qu'il faut les traiter avec un relatif cynisme.
Mais par exemple, vous-même, dans la suite de Machiavel, vous expliquez que ne pas tenir ses promesses n'est pas du cynisme, c'est de la politique. La promesse ne s'exerce pas dans le même temps et sous le même rapport quand on l'énonce et quand on doit la tenir. C'est pourquoi, je vous cite hein, Vincent Payon, c'est pourquoi ne pas tenir sa promesse n'est pas nécessairement une trahison et vouloir la tenir à tout prix peut être considéré comme un entêtement, voire comme une inacceptable violence.
Expliquez-nous. C'est ça, oui. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans la promesse, parce qu'en fait, après, je parcours. Là, on est sur l'expérience de la promesse en politique.
Oui. Hein, ça,
c'est ce que vous retenez, qui est le premier tiers du livre. Après, il y a le traitement philosophique, parce que c'est une question très traitée par les philosophes de la politique. Et après, on revient à la promesse initiale, qui est l'acte de naissance et la promesse biblique, bon, qui m'a semblé une promesse éminemment politique, par définition.
On va y arriver.
Alors, sur l'expérience politique, ça vous l'avez vécu, vous, observateur de la vie politique depuis très longtemps. On vous demande, par exemple, dans une campagne électorale de faire des promesses. On vous dit même parfois, vous avez été élu parce que vous avez dit que vous allez taxer à 75%. Ouais. Mais à ce moment-là, même les gens qui vous demandent de faire cette promesse savent que vous ne pourrez pas la tenir. Et parfois, ils peuvent vous reprocher, les mêmes, le temps d'après, de la tenir. Moi, j'étais très, très surpris. Prenez l'impôt à la source. Quelqu'un comme moi, il y a 25 ans, avec des gens comme Strauss-Kahn, on se dit, il faut que mettre la France, modernité, on va mettre l'impôt à la source. Je pense à vos collègues des Échos. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Vous n'êtes pas courageux, les socialistes. Et puis, quand, parce que c'est une décision qui a été prise sous Hollande, et qui est appliquée maintenant, avec le courage, par le gouvernement actuel. Mais le même journal titre, c'est le bordel général, c'est un scandale, c'est plein de... Oui. Donc les mêmes gens qui vous ont demandé de prendre la promesse...
Ça n'a pas duré très longtemps. Hein.
Ne veulent pas que vous la teniez. J'ai connu ça 1000 fois. Il y a des gens aussi, c'est très, très étonnant, qui vous demandent, ce qu'on disait à l'instant, de faire des promesses dont ils savent que vous ne pourrez pas les tenir. Donc vous vous dites, c'est pas bien, il faut que je lui dise la vérité. Et ils vous en veulent beaucoup si vous dites la vérité. Je me suis interrogé, pour quelles raisons? Moi, je ne pars pas de l'idée que ces gens sont mauvais. Donc, est-ce que c'est de l'empathie? Est-ce qu'il faut montrer, ben on sait qu'on n'y arrivera pas, mais finalement, ne pas y arriver n'est pas un motif suffisant. Et être rationnel n'est pas nécessairement sympathique, parce que la vie n'est pas faite que de rationalité. En politique, il y a beaucoup d'irrationalité, d'affectif, d'émotion, de passion. Donc au début, j'essaie de mélangeant, si vous voulez, ce qu'on appelle, nous, une analyse phénoménologique, l'expérience de la promesse, et un peu mon expérience. Depuis les directives européennes sur les chasseurs, jusqu'au rythme scolaire, j'ai fait 5 programmes présidentiels, je regarde un petit peu et je nourris ma réflexion de ça.
Vous êtes un expert en promesse, en quelque sorte. Et vous
écrivez en engagement,
qu'un
vous savez,
monde...
En engagement, vous savez bien, je le dis, les politiques, ils n'osent pas.
Oui.
Donc ils se disent, on va dire engagement. Oui. Et j'essaie de faire une analyse, pourquoi?
Mais plus généralement, de façon plus générale, vous pensez et vous écrivez qu'un monde sans promesses serait un cauchemar parce que ça fait partie de la vie et des relations humaines. Et pour résoudre ces contradictions, vous l'avez effleuré tout à l'heure, vous êtes allé chercher secours dans la religion. Vous avez trouvé la solution dans la Bible hébraïque.
Non, c'est pas exactement comme ça. Mais après, quand vous passez, vous avez parlé de Machiavel. Quand vous passez sur les philosophes, donc je fais un parcours... des philosophes classiques qui ont traité ce thème de la promesse sans lequel il n'y a pas de société. Parce que la promesse, ça veut dire « je m'engage pour demain ». Imaginez une société, ou même vos rapports privés, ou tout ce qui est d'ordre contractuel, le droit des obligations, comme on dit. Sans promesse, ça ne fonctionne pas. Donc tout le monde a compris que la promesse, elle est au fondement de la société. Certains l'appellent le contrat dans la modernité. Bon. Vous avez deux grandes attitudes. Vous avez une attitude radicale et moraliste, qui consiste à dire « je dois tenir ma promesse coûte que coûte ». C'est le fameux droit de mentir aussi. De
ça, vous dites, c'est dangereux. Hein.
Mais ça peut être un peu dangereux, oui, en politique. Et d'ailleurs, c'est une posture morale noble, mais une posture politique dangereuse. Parce qu'il faut quand même tenir un peu compte des circonstances, des avis contraires, etc. Bon. Et puis, vous avez l'autre, c'est Machiavel caricaturé, l'autre attitude, faut faire des promesses pour gagner le pouvoir, voire éventuellement le conserver tous les 5 ans dans notre régime. Mais on sait ce que vaut une promesse, etc. Bon. Donc on tourne un peu en rond, et il y a ce qu'on appelle une casuistique. On se dit, mais alors, quelles sont les promesses qu'on doit tenir et celles qu'on ne doit pas tenir? Et là, on entre dans une espèce de truc, vous pouvez faire une comptabilité à 2 colonnes, ça va faire des milliers de pages. Je me suis interrogé sur l'essence de la promesse. Ce qui est étonnant, c'est que notre civilisation commence avec une promesse. C'est ce qu'on a appelé l'alliance ou la bérite, c'est-à-dire la promesse qui est faite à Abraham, d'un pays de lait et de miel, la promesse qui est faite à Moïse. Et j'ai essayé de réfléchir quelle est cette promesse. Je l'ai trouvée assez intéressante parce que très actuelle dans la mesure où elle nous amène à critiquer notre modernité telle que l'ont fait quand même un certain nombre de gens après les désastres du XXe siècle, qui se sont dit le modèle libéral du contrat, donc du contrat social qui émerge au XVIIe siècle, est un modèle un peu faible et l'alliance est un modèle qui est plus fort. Et quand on le regarde, surtout dans les débats actuels, j'ai trouvé que, donc j'essaye de proposer une lecture de cette alliance biblique, que nous retrouvons des éléments extrêmement forts sur le droit des étrangers, l'accueil de l'autre, sur ce qu'oublient beaucoup de gens, c'est pas seulement la liberté, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, c'est-à-dire qu'à chaque moment, la liberté est à conquérir et à batailler. C'est, il n'y a pas de fin de l'histoire. Jérusalem, c'est toujours pour demain, c'est l'année prochaine à Jérusalem. Alors que Rome, tous les chemins y mènent et on y est, c'est la domination. Donc moi, j'oppose très durement les deux modèles politiques de Jérusalem et de Rome. Et c'est, je rajoute quelque chose qui est totalement oublié dans une dérive, y compris de la pensée biblique ou de la pensée judaïque aujourd'hui, c'est la question de la justice sociale. Vous savez que c'est incroyable, mais dans la Bible, il faut remettre les terres en partage, c'est le jubilé, tous les 6 ans ou les 50 ans, libérer les esclaves, accueillir les étrangers et remettre pour que les inégalités ne soient pas trop grandes. Et donc j'ai essayé à la fin, c'est ce qui m'a intéressé, on m'avait demandé une conférence, et plus j'avançais, plus je trouvais que ce parcours, partir de l'expérience politique, la traiter philosophiquement, et puis tout d'un coup revenir à cette origine et essayer de lui donner une forme d'actualité, pouvait faire quelque chose d'intéressant, et je crois qu'il est assez actuel, y compris sur la question de l'étranger.
Je vous le confirme, Vincent Peillon. La promesse aux presses universitaires de France, Laurent Geoffrin, le roman de la France chez Talendier. Merci à vous deux dans un instant. Dans un instant, Céline Alvarez qui avait fait sensation il y a 3 ans avec les lois naturelles de l'enfant et qui depuis a mis en pratique sa méthode et ses préceptes en Belgique sur une plus grande échelle. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Il y a 3 ans, une jeune femme qui semblait surgie de nulle part, Céline Alvarez, bousculait le monde enseignant avec un livre, Les lois naturelles de l'enfant, récit d'une expérience éducative aux résultats spectaculaires menée pendant 3 ans dans une classe maternelle de Gennevilliers, avec à la clé des enfants épanouis, calmes et motivés, ayant trouvé le goût de l'école et même de la lecture à 4 ou 5 ans. Et des parents émerveillés de cette métamorphose. Le livre a fait un carton, plus de 200 000 exemplaires vendus. Son auteur s'est fait traiter de gourou, tandis que les plus bienveillants de ses critiques expliquaient que le succès de Gennevilliers tenait surtout à la personnalité de l'enseignante, à son charisme et son implication, et que la méthode n'était pas transposable, pas reproductible. Voici donc un nouveau livre qui tend à démontrer le contraire. Bonjour Céline Alvarez.
Bonjour Patrick Cohen.
Une année pour tout changer, livre qui paraît aux arènes, c'est donc le récit d'une expérience à plus grande échelle menée en Belgique, c'est le gouvernement wallon qui a fait appel à vous ?
Oui, en effet, oui, la ministre de l'Enseignement.
Donc vous avez formé, accompagné 750 profs pendant toute une année scolaire ?
Oui, c'est ça. Je les ai accompagnés à mettre en place un nouveau fonctionnement basé sur l'autonomie de l'enfant.
Des profs volontaires ?
Volontaires, oui, qui travaillaient, qui se regroupaient à Namur le week-end.
Et sans grands moyens, parce qu'en Belgique, il n'y a pas d'ATSEM, ce sont les assistants, assistantes, le plus souvent qu'on trouve dans les classes de maternelle.
Effectivement, j'ai trouvé qu'au niveau du matériel pédagogique, ils étaient vraiment moins fournis qu'en France, déjà pour commencer. Et ensuite, ils n'ont pas d'ATSEM, pas d'assistante dans les classes, ce qui fait que le travail est un peu plus, vraiment plus laborieux, quoi.
Alors, la méthode, mais je sais que vous n'aimez pas qu'on emploie le mot méthode, ce que vous dites aux profs et aussi aux parents, pour respecter les lois naturelles de développement de l'enfant, laissez tomber, du moins dans un premier temps, les chiffres et les lettres. Oublier les fondamentaux, lire, écrire, compter, ça viendra plus tard. La priorité pour les petits-enfants, c'est de développer leur autonomie, leur intelligence exécutive. C'est quoi les fonctions exécutives qui sont au cœur de votre apprentissage ?
Eh bien, ce sont pour moi les vrais fondamentaux. C'est-à-dire qu'avant les fondamentaux dont on parle toujours et qui sont essentiels, lire, écrire, compter, etc., ou respecter autrui, comme le dit notre ministre actuel, il y a d'autres fondamentaux. Il y a les premiers fondamentaux qui sont en fait la capacité à atteindre ses objectifs, à persévérer, à se contrôler, à réfléchir avant d'agir, à planifier ses actions pour atteindre un objectif, la concentration, etc. Tout ça, ce sont des compétences qui émergent de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et ces fonctions-là se développent par l'action, par l'autonomie de l'enfant, par sa capacité à relever des challenges de plus en plus difficiles dès le plus jeune âge. Et d'abord les enfants nous le disent très tôt.
À faire soi-même.
Ils nous le disent. Dans toutes les langues du monde, au même âge, ils nous le disent, moi tout seul. Et pour cause, parce que s'ils ne peuvent pas faire seuls et relever des challenges de plus en plus difficiles, eh bien ces fonctions de l'intelligence qui sont en train de de se développer ne se développe pas correctement. Et ensuite, les enfants ont du mal à rester concentrés, ont du mal à patienter, ont du mal à aller jusqu'au bout de leurs objectifs, à persévérer, à faire preuve de créativité. Ça vient de là. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Faire soi-même des puzzles, des nœuds, ouvrir et fermer des boîtes, des boulons ou des cadenas, plier du papier, nettoyer un miroir, jouer et ranger. Ce n'est pas déjà ce qui se fait en maternelle, dans les classes de maternelle, Céline Alvarez ?
Ça va clairement en ce sens. Mais il faut juste pousser le curseur beaucoup plus loin. C'est ça la différence. La révolution là, de l'éducation, si elle doit se faire, c'est juste une révolution de bon sens, de priorité, et puis de un peu plus de radicalité, en fait. Oui, on va déjà dans ce sens-là, mais vraiment, vraiment pas assez. Parce que justement, aujourd'hui, l'autonomie, la capacité à patienter, à aller au bout des activités, etc., ça se travaille beaucoup dans les familles. Justement, ce qui se fait la différence aujourd'hui, oui. Ce qui crée les inégalités, c'est ça, c'est que ces fondamentaux exécutifs se construisent dans les familles. Essentiellement, puisque l'école, par son fonctionnement traditionnel, ne peut pas porter et pousser loin l'autonomie de l'enfant dans sa globalité, hein, dès le plus jeune âge.
Et donc, c'est pour ça aussi que votre message s'adresse aux parents, c'est-à-dire laisser les enfants construire leur autonomie, ça vaut aussi à la maison. Si vous avez votre tout petit enfant qui essaie de ranger une assiette dans le lave-vaisselle, vous dites aux parents, laissez-le faire.
Aidez-le à le faire, continuez. En fait, mon message auprès des parents, c'est un message hyper positif et je suis très contente de le partager. C'est de dire, en fait, ce que vous faites déjà assez spontanément, quand on prend le temps de le faire, eh ben, c'est juste continuer et aller plus loin en ce sens. Et pas seulement l'autonomie pratique, s'habiller seul, mettre l'assiette dans le lave-vaisselle, etc., quand ils veulent le faire tout petit. C'est même plus loin que ça, c'est aider les enfants à patienter, à s'exprimer clairement quand ils ont envie de s'exprimer. Vous savez, quand les petits veulent dire quelque chose à 2-3 ans, et on voit bien qu'il y a trop d'idées dans leur tête et que ils sont un petit peu dépassés par tout ce qu'ils veulent nous dire, mais les aider à aller au bout, prendre le temps de le faire pendant 5-10 minutes, c'est essentiel. Ça ne va pas, c'est pas plus compliqué que ça. Et je trouve que c'est un message hyper positif, c'est de dire, ok, ce qu'on a l'intuition de faire, c'est juste, il faut juste aller beaucoup plus loin, le faire beaucoup plus, et dans un temps, à l'école maternelle, ne faire que ça, laisser le reste de côté. Parce qu'une fois que ça s'est construit, l'enthousiasme des enfants se réveille, et ils apprennent tout ce qu'ils veulent apprendre très facilement. C'est assez extraordinaire.
Y compris à lire. Ça se joue à quel âge ? Avant 5 ans ?
Oui, c'est les premières années de vie, véritablement, que les fondations exécutives se développent, oui.
Céline Alvarez, une année pour tout changer. Il y a d'autres facteurs d'autonomie et de développement. On en parle dans un instant. En trois mots, moins d'écran, plus de sommeil.
Europe 1. Chaque samedi, de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Avec Céline Alvarez, la pédagogue qui veut changer l'école et qui a commencé à le faire. Une année pour tout changer, c'est votre deuxième livre aux éditions Les Arènes. Développer les fonctions exécutives des enfants, on en parlait il y a un instant, c'est avec des objets, pas avec des écrans.
Oui, c'est avec de l'activité et non de la passivité en fait, hein, c'est ça.
On est toujours passif devant un écran, oui. Vous considérez
que... Quand ils sont tout petits, les enfants qui sont face à des dessins animés, ah oui. Ce genre de choses, vous voyez, c'est de la passivité. Donc, tout à l'heure, on parlait finalement des facteurs qui favorisent donc, l'activité, l'autonomie, etc. Et il faut faire attention aussi à tout ce qui va entraver. Il y a vraiment deux tendances. Hein. Et ce qui va entraver, effectivement, c'est la passivité, le manque d'activité déjà, et aussi, effectivement, la passivité devant des perturbateurs attentionnels, que sont les écrans. C'est catastrophique, c'est une double peine, parce que non seulement les enfants ne sont pas actifs, donc ils sont passifs, mais en plus, ils sont face à des écrans qui va détraquer en fait leur système attentionnel exécutif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est devant des écrans, Michel Desmurget, le neuroscientifique qui est très spécialiste de ces sujets-là, en parle très bien, les enfants sont en système attentionnel d'alerte. Ils sont complètement, en position de... Je n'ai plus le mot. Ils sont les yeux grands, écarquillés, mais ils ne sont pas attentifs. Ils sont complètement surpris en fait, par le débit d'image, etc. Et ça détraque leur système attentionnel d'action.
Le manque de sommeil.
Le manque de sommeil, eh bien, il a été montré clairement qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui ont des problèmes, des difficultés attentionnelles, souvent ne manquent que d'un manque de sommeil. Et puis, un manque de sommeil profond. Parce que quand on est adulte, le manque de sommeil va clairement venir, nous rendre un petit peu dysfonctionnel. Ça va toucher en fait la zone préfrontale de notre cerveau qui abrite les fonctions exécutives. Et ça nous rend, voilà, on est beaucoup plus irritable, on a du mal à persévérer, on a du mal à patienter. Ça c'est le cas quand on est adulte. Mais quand on est enfant et qu'on manque de sommeil, on n'est pas seulement dysfonctionnel. Les enfants ont beaucoup plus de mal à gérer leurs émotions, etc. Mais aussi, ça va vraiment empêcher de créer en fait ces fondations-là d'attention, de persévérance, exécutive, etc.
Alors, dans ce livre, Céline Alvarez, c'est que vous présentez comme un partage d'expérience. On voit les témoignages de profs et de parents en Belgique avec des résultats que vous décrivez comme similaires à ceux obtenus à Gennevilliers, avec des enfants qui ne se sentent pas seulement bien à l'école, mais bien dans leur comportement en général. C'est-à-dire que vous avez constaté une transformation de personnalité.
Oui, c'est vraiment, c'est ce qui était très fort comme, comme constat pour moi là en Belgique, c'est qu'à Gennevilliers, j'avais effectivement des moyens supplémentaires, j'avais du matériel Montessori notamment, la présence aussi d'une ATSEM à temps complet dans la classe, et je comprends qu'on ait pu penser que les résultats forts qu'il y avait eu, c'est-à-dire au niveau des acquis scolaires, les enfants de maternelle entraient dans la lecture, faisaient des opérations mathématiques à quatre chiffres, etc. C'est, tout ça, on a pu penser que c'était lié à ces moyens supplémentaires. Or là, on n'avait pas de moyens supplémentaires et pourtant les mêmes constats ont eu lieu sur le développement des acquis scolaires, mais aussi sur le développement de la personnalité, de la confiance en soi, etc. Donc ça montre bien que c'était vraiment sur le développement, l'étayage, en fait, l'accompagnement qu'on a fourni aux enfants pour développer les fonctions exécutives dont on parle depuis tout à l'heure. Et effectivement, sur les enfants, il y a eu un vrai effet de bascule avec peu de moyens, mais une grande présence, vraiment un changement de posture chez l'enseignant. Mais je tiens à dire une chose, les constats observés, ce n'est pas seulement chez les enfants. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est les constats, la transformation aussi chez les enseignants. Les enseignants, même les directeurs, il y a un vrai apaisement qui est arrivé chez eux. Ils sont beaucoup moins fatigués. Ils reprennent goût à leur métier. Et pourquoi ? Parce que justement, ils peuvent, en transformant l'environnement, en recréant une relation plus individualisée, plus humaine aussi, ils reconnectent en fait à une vraie relation profonde avec l'enfant et ça les porte. Les enseignants sont vraiment portés. Il y a une vraie transformation sur le terrain, chez les enseignants qui s'engagent dans ce type de démarche.
Alors, et en France, Céline Alvarez, on connaît l'histoire. En France, c'est une histoire contrariée. Au départ, vous êtes soutenu par le directeur de l'enseignement scolaire, un certain Jean-Michel Blanquer. On est en 2011. Trois ans plus tard, la gauche au pouvoir met fin à l'expérience de Gennevilliers. Aujourd'hui, est-ce que vous espérez encore avoir un encouragement de type institutionnel ou est-ce que vous comptez simplement sur vous adresser directement aux profs et avec des profs qui individuellement adoptent ces pratiques?
Moi, je vais continuer de toute façon à travailler avec les gens de terrain parce que je crois qu'ils sont dans un manque d'outils concrets considérables. Donc de toute façon, je continuerai comme je le fais jusqu'à présent, c'est-à-dire tout ce que je fais, tout ce que les autres font aussi. Là, j'ai filmé beaucoup en Belgique les enseignants dans leur classe et tout ça va être remis en ligne. Donc ça, je vais continuer à le faire. Mais évidemment, un soutien institutionnel, ce serait très explicite, ce serait formidable. Mais pas pour moi.
Mais vous avez perdu
le
contact avec Blanquer ?
Je n'ai pas de nouvelles, effectivement, pour l'instant.
Bon, et est-ce que vous connaissez, parce que ça, on a reproché le manque d'évaluation à Gennevilliers, est-ce que vous connaissez le devenir scolaire des enfants de Gennevilliers, ceux que vous avez accompagnés pendant 3 ans ?
Je suis en contact encore avec quelques-uns, effectivement, et ils ont gardé justement ces fondations-là qui sont, je pense, les plus essentielles et qui me tiennent tant à cœur, c'est-à-dire la confiance en soi, l'autonomie, l'esprit critique, l'autonomie globale, en fait, de penser, d'être et pratique. Et ça reste encore des enfants très débrouillards, très, très conscients d'eux-mêmes, de leurs capacités, et beaucoup dans l'entraide. Et ça, c'est ce qui reste le plus, et je trouve ça formidable.
Céline Alvarez, une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler aux éditions Les Arènes. Et puis on peut aller voir votre site web avec vidéos, photos, témoignages, exemples et méthodes. Merci à vous.
Merci.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Patrick Cohen sur Europe 1.